Bonsoir. Un mois après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2404 prolongeant d'un an le mandat de la MONUSCO, dialogue entre Congolais de ce soir revient sur le chapitre politique de cette résolution. Pour rappel, la résolution 2409 demande à la MONUSCO d'appuyer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral en RDC. Quelle analyse faire de cette résolution dans son volet politique? C'est la question de l'émission et nous en parlons ici au studio avec M. Mudjibo Djinadou. Il est directeur de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Bonsoir M. Mudjibo Djinadou.
Bonsoir.
André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Bonsoir M. l'ambassadeur André Alain Atundu. Et professeur Jacques Joly, sénateur de l'opposition et inspecteur général du parti politique MLC. Bonsoir professeur Jacques Joly.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La résolution 2409 votée le 27 mars dernier à l'unanimité sur le nouveau mandat de la MONUSCO contient entre autres un volet politique et électoral. Le Conseil de sécurité demande notamment à toutes les parties congolaises d'œuvrer pour préserver les avancées, je cite, encore fragiles réalisées sur la voie de la paix et de la stabilité en RD Congo. Fin de citation. Honoré Missenga Kalala revient sur quelques détails de ces volets politiques de la dernière résolution sur la RDC.
Le socle du volet politique de la résolution 2409 repose sur l'accord du 31 décembre 2016 dont le Conseil de sécurité exige de la part de ses signataires son application intégrale et de bonne foi. Et la résolution cite entre autres signataires notamment le président de la République, la majorité présidentielle et l'opposition. L'application de l'accord de la Saint-Sylvestre implique aussi, lit-on dans la même résolution, les mesures de décrispation parmi lesquelles la libération des prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires injustifiées telles que mentionnées dans le dit accord, ainsi que la fin du dédoublement des partis politiques. Dans le même ordre d'idée, le Conseil de sécurité demande l'instauration d'une procédure crédible d'inscription des candidats ainsi que l'autorisation de tous les principaux partis politiques à nommer leurs propres représentants dans les structures chargées de la supervision du processus électoral. C'est là en vue de procéder sans tarder à la préparation des élections prévues le 23 décembre 2018. Par ailleurs, les 15 du Conseil de sécurité demandent aux organisations internationales de collaborer étroitement entre elles en vue d'assurer l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Il s'agit de l'ONU, de l'Union africaine, de la CIRGL, de la SADC ainsi que d'autres acteurs régionaux.
Merci à vous, Honoré Missenga Kalala. Monsieur Mudjibo Djinadou, directeur de la division des affaires politiques de la MONUSCO. À première vue, la résolution 2409 ne diffère pas des précédentes résolutions, d'autant plus que elle met aussi, elle, n'est-ce pas, l'accent sur la protection des civils et sur l'appui au processus électoral. Quelle est la particularité de cette résolution dans son volet politique?
Merci beaucoup. Alors, il faut commencer par dire que le mandat, évidemment, n'est pas que politique. Le mandat de la MONUSCO, la résolution 2409, élève la protection des civils comme la pierre angulaire de la résolution 2409, la pierre angulaire de toutes les actions, toutes les initiatives de la MONUSCO. C'est l'objectif ultime. En ce qui concerne le volet strictement politique, la distinction qu'on peut faire avec
les précédentes résolutions.
Avec les précédentes résolutions, et notamment la 2348, la distinction qu'on peut faire avec la 2348, c'est que ici, la tenue d'élections crédibles dans un contexte apaisé au terme du calendrier électoral est élevée au rang d'objectif ultime de l'action de la MONUSCO. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité a estimé que le but, la finalité de ce que doit faire la MONUSCO et la communauté internationale, mais notamment la MONUSCO puisqu'il s'agit d'une résolution du Conseil de sécurité, le but ultime c'est d'aboutir sur la base de l'accord, des prescrits de l'accord du 31 décembre à l'organisation dans un climat apaisé, d'élections crédibles, transparentes, au 23 décembre 2018, qui n'est pas une date prise au hasard, c'est la date telle que stipulée par le calendrier électoral publié par la CENI.
Voilà, donc la 24-09 vise la tenue d'élections crédibles dans un contexte apaisé. Et dans cette résolution, il est demandé, n'est-ce pas, à la MONUSCO d'appuyer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral, vous l'avez rappelé. Et commence par l'accord du 31 décembre. Qu'est-ce qui pourrait être, n'est-ce pas, la contribution de la MONUSCO dans ce débat qui existe aujourd'hui entre d'un côté ceux qui pensent que l'accord est appliqué comme il se doit, ça c'est la majorité présidentielle, et ceux-là qui, par contre, pensent que cet accord n'est appliqué que partiellement, ça c'est l'opposition et une partie de la société civile. Quelle pourrait être la contribution de la MONUSCO dans ces débats?
Oui, d'abord en restant dans le contexte, dans le périmètre du mandat et de la résolution 2409, et il faut savoir que le Conseil de sécurité demande à la représentante spéciale, le secrétaire général et chef de la MONUSCO, d'exécuter des missions de bons offices. Des missions de bons offices, c'est-à-dire l'objectif, c'est de rechercher un consensus entre les acteurs politiques et institutionnels sur la base de la constitution de la RDC et donc de l'accord du 31 décembre. Nous en tenons aux faits. Parce qu'évidemment, on peut discuter de façon politicienne, si je puis dire, de ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, et notamment dans une période, dans le cadre d'un processus électoral, où évidemment tout est exacerbé. Mais ensuite, en se tenant au fait, nous essayons de constater ce qui est prévu dans l'accord, ce qui nous conduira de façon crédible à l'organisation d'élections, et c'est dans ce cadre-là que les éventuels manquements, les éventuels ratés sont d'une certaine façon recueillis par la représentante spéciale pour mener des missions de bons offices, pour promouvoir et encourager les différents acteurs de quelque endroit que ce soit sur l'échiquier politique congolais, pour encourager des interactions fructueuses entre ces acteurs pour justement arriver encore une fois à ce qui est la finalité ultime, l'organisation d'élections crédibles sur la base des textes existants, c'est-à-dire le droit positif du pays, la constitution et également l'accord qui a été signé par les parties prenantes congolaises.
Et si aujourd'hui ces missions des bons offices sont initiées et que la situation ne change pas sur le terrain, que on chemine, n'est-ce pas, vers les élections, qu'est-ce que la MONUSCO pourrait faire à ce moment-là pour prévenir, n'est-ce pas, tout risque des crises? Vous savez qu'il y a eu des gens qui sont morts récemment, n'est-ce pas, dans certaines villes de la RDC, notamment ici à Kinshasa, tout simplement parce que il est réclamé l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et si on chemine ainsi, on évolue ainsi, et qu'il n'y a pas de changement, et on va jusqu'aux élections, qu'est-ce que la MONUSCO prévoit, n'est-ce pas, de faire?
De toutes les façons, la résolution 2409, si vous l'avez regardé attentivement, et c'est assez rare pour être souligné, une résolution qui est d'une certaine façon qui donne un mandat modulable à la MONUSCO. Le Conseil de sécurité, dont une délégation visitera Kinshasa, visitera la RDC avant les élections, a déterminé certains repères, les repères clés, il y en a 5 ou 6. Que nous suivons de façon très attentive. Vous savez que c'est sans doute la première fois que le Conseil de sécurité recevra un rapport mensuel de la part de la mission. Je ne suis pas sûr que ce soit jamais effectué dans une opération de maintien de la paix. Et donc, le suivi est un suivi pratiquement au jour le jour de ce qui se fait sur la base de certains repères, certaines références, où le Conseil examine et détermine si ces repères, si ces engagements pris ont été tenus. Et donc le mandat de la MONUSCO est modulable. Ça veut donc dire que ce n'est pas la MONUSCO qui ferait quoi que ce soit, c'est le Conseil de sécurité qui pourrait décider à un moment si il constate que les engagements pris ne sont pas tenus, qui pourrait donc ajuster le mandat et donc donner une nouvelle de nouvelles orientations, de nouvelles directions que nous forcément nous serons tenus de suivre. Il appartient donc à chacun, nous, ainsi que les parties congolaises, ainsi que la communauté sous-régionale, que les communautés, les institutions sous-régionales, elles sont nombreuses, qui sont ici aussi investies et impliquées dans la question de ce processus politique et électoral, à essayer de faire un suivi aussi précis que possible de ces repères pour pouvoir nous amener à évaluer le mandat sur une base constante.
Monsieur Moudjib, toutes les résolutions précédentes parlent de l'appui logistique de la MONUSCO à ces élections. Est-ce que c'est la même chose avec la 24-09 parce qu'il y a des experts, n'est-ce pas, qui disent que la 24-09 ira au-delà de l'appui logistique. Où pourrait aller la MONUSCO dans l'appui au processus électoral en RDC?
D'abord, l'appui logistique, c'est évident. Ça, c'est d'une certaine façon, le mandat de la MONUSCO comporte, en ce qui concerne l'appui au processus électoral, aux opérations des élections, comporte un volet logistique évident, y compris transport de matériel électoral sensible et non sensible, et beaucoup d'autres éléments. Au-delà de ça, encore une fois, le mandat est très clair. Il s'agit encore une fois de l'engagement que la représentante spéciale a d'une façon quotidienne. Moi, je peux vous dire que lorsqu'elle est à Kinshasa, lorsqu'elle n'est pas sur le terrain à Beni, en Ituri, elle est constamment en contact avec toutes les parties prenantes congolaises, que ce soit les acteurs politiques et de la majorité de l'opposition, la société civile,
est-ce
les
que femmes. C'est la même logique que les précédentes résolutions? Est-ce que on n'a pas renforcé les mandats de la MONUSCO dans ces volets élections, cette fois-ci à travers la 24-09?
Oui, c'est-à-dire que l'appui logistique, de toute façon, devait y être, de toutes les façons. L'aspect dont vous parlez, si je comprends bien, c'est le suivi du processus électoral. Évidemment, nous sommes en année d'élection, nous avons un calendrier, nous avons des échéances, nous avons une date pour les élections présidentielles et législatives. Alors forcément, il appartenait au Conseil de sécurité de doter la MONUSCO d'un mandat qui lui permette d'exécuter cette fonction, oui.
Merci André-Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Votre réaction par rapport à la résolution 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Bonsoir à tous les auditeurs. À première vue, la résolution 2409 semble stéréotypée. Mais en réalité, c'est une résolution prise dans un esprit nouveau, un esprit positif, qui a tenu compte des exigences de la République démocratique du Congo, en matière notamment de souveraineté, pour la bonne fin du processus électoral. C'est ainsi que on peut résumer les trois exigences en synergie au sein de la MONUSCO. La MONUSCO a été exhortée à travailler dans la synergie au sein d'elle-même. Ensuite, on a exhorté la MONUSCO à travailler dans la transparence et la collaboration parfaite avec le gouvernement et les institutions nationales. Enfin, il y a le principe du retrait programmé. Et donc voilà les trois, si on peut résumer, les éléments essentiels structurant de cette résolution. Donc c'est une exhortation à tous les acteurs à agir pour consolider la stabilisation de la vie politique sans qu'il y ait d'un côté les accusateurs, de l'autre les défendeurs.
Vous avez dit à première vue, cette résolution semblait stéréotypée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais c'est un peu comme les anciennes. C'est un peu comme les anciennes, mais dans un esprit nouveau. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un nouveau mandat pour la MONUSCO. Il s'agit d'un rappel de l'ancien, du mandat original, pondéré par les variations des circonstances du moment, notamment la préparation aux élections et la période électorale. Donc tout le monde doit être vigilant, la MONUSCO, le gouvernement et les acteurs politiques, parce que la période pré- et post-électorale est une période sensible à cause de la pression des événements sur les acteurs, à cause de la frustration inévitable des uns, à cause de l'inadaptation ou de l'inacceptation de certaines résolutions. Donc, il nous faut faire montre d'un grand esprit de patriotisme pour nous les Congolais et que au niveau de la MONUSCO qu'elle fasse montre d'un esprit d'ouverture.
Oui, mais en ce qui concerne l'accord de la Saint-Sylvestre que le Conseil de sécurité exige à travers cette résolution, le respect de la part de tous ses signataires, et donc son application intégrale et de bonne foi, et comment vous, de la majorité, vous réagissez par rapport à cette résolution?
Mais c'est notre conviction. Il faut agir intégralement et de bonne foi.
Mais est-ce que c'est ce qui se fait concrètement?
Oui, ça se fait concrètement. Je vais par exemple vous citer le cas de dédoublement des partis qui a trouvé une solution sans tambour ni trompette. Et les autres situations, cas beaucoup plus compliquées, eh bien, ne sont pas abandonnées, ils sont en élaboration. Mais il faut être honnête avec soi-même et avec l'opinion. La période préélectorale ou électorale n'est pas un moment d'absolution de toutes les fautes. Nous sommes là dans une période où le peuple doit choisir ses dirigeants. Et les dirigeants doivent s'exprimer d'abord par l'exemple. Alors, si à chaque fois que les dirigeants ou un des dirigeants commet une faute et attend un événement ou une circonstance particulière politique importante pour être lavé de tout son mal ou de tout son péché, eh bien c'est un message trouble.
Là vous faites allusion aux hommes politiques qui sont poursuivis et incarcérés?
Non, je fais allusion à tous ceux qui sont concernés dans ce cas-là. Donc que ce soit ceux qui sont incarcérés, que ce soit ceux qui sont en liberté, eh bien, la politique ici ne doit pas être un syndicat des gens destinés à ne tenir compte que de la position et des acteurs politiques. Au-delà des acteurs politiques, il y a les intérêts majeurs de la République et les intérêts majeurs de notre peuple.
Justement, par rapport, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, il a été dit que, n'est-ce pas, pour faciliter la décrispation de l'espace politique, il fallait libérer les hommes politiques qui sont en prison et permettre à ceux-là qui sont en exil de pouvoir revenir au pays. Mais cela n'est pas encore fait jusque-là.
Bien sûr, mais vous avez dit de bonne foi. Je prends le cas des hommes en exil. Est-ce que l'honorable Kamitatu, est-ce que l'honorable Fancy Kalombo, est-ce que l'honorable Moussa Nyamwisi sont interdits de venir ici? Ont-ils une raison particulière d'avoir peur de rentrer?
Vous avez cité tout le monde, sauf...
Non,
sauf
je vous parle de ce
cas. Vous n'avez pas cité
Moussa
Moïse Katumbi?
Non, je ne l'ai pas cité parce que lui, il a peur de rentrer, pour des raisons évidentes. C'est de mêler avec la justice. Donc, je le mets de côté. Mais les autres, n'est-ce pas participer aussi à la décrispation que de rentrer de bonne foi, au lieu de tenir la vie politique et le processus électoral sous une certaine forme de chantage?
Au point 36B de la résolution 2409, le Conseil de sécurité des Nations Unies demande à la MONUSCO de fournir une assistance technique et un soutien logistique dans le cadre du processus électoral. Il y en a qui estiment que c'est une façon, n'est-ce pas, de demander à la MONUSCO de s'impliquer de façon active dans le processus électoral. Est-ce que c'est votre point de vue?
Mais l'implication de la MONUSCO répond ou tient compte de l'accord de siège, de l'objectif de la MONUSCO, qui est la stabilisation de la vie politique au Congo. Et en période électorale, que doit faire la MONUSCO? Elle doit prendre toute initiative positive en concertation avec le gouvernement pour éviter des malentendus handicapants.
Voilà. Merci beaucoup, professeur Jacques Joly. Vous êtes sénateur de l'opposition et inspecteur général du parti politique MLC. Et votre réaction par rapport à cette résolution 2409 des Nations Unies dans son volet politique?
Ben, merci beaucoup. Je salue les auditeurs et mes co-batteurs, co-débatteurs. Ben, en fait, nous sommes dans une sorte d'échange. Vous savez, en lisant cette résolution 2409, et comme a dit M. Atundu, on est dans un constat permanent d'un État qui est incapable d'assurer ses missions pendant plus de 15 à 20 ans de pouvoir. Un gouvernement qui se voit, à travers cette résolution, un, mis sous tutelle de Nations Unies parce qu'elle n'est pas capable d'assurer la protection de ses citoyens. Mission élémentaire de tout État. Deuxième objectif.
Est-ce que vous pensez que c'est la mise sous tutelle des Nations Unies?
Mais lorsqu'un État se voit rappeler le devoir de protéger ses citoyens, c'est un État sorcier. Deuxièmement, on dit qu'il faut appuyer cet État à résoudre le problème de groupes armés. Donc, cet État n'a plus la capacité, même symbolique, de faire face à des groupes armés qui tuent sa propre population chaque jour. À Béni, des femmes pleurent parce que leur gouvernement est incapable de le protéger. Et troisièmement, l'État est mis sous béquille parce que il ne parvient pas à soutenir un processus électoral face aux institutions tombées en désuétude, en manque et en carence de légitimité, parce que cet État est incapable d'organiser des élections depuis 2016. Voilà le tableau. À partir de là, on nous parle de la souveraineté. Mais la souveraineté, ce n'est pas un vain mot. La souveraineté, ça veut dire la responsabilité. Donc, la résolution 2409 est l'expression de la déliquescence d'un État. Donc, nous sommes dans un processus de dénaturation d'un État et l'ONU est en train de nous aider à travers une résolution. Monsieur Joulas, vous savez qu'une résolution du Conseil de sécurité est une décision contraignante. Donc, on nous contraint à faire tout ce qui est là. Et lorsque vous lisez les préambules de cette résolution, vous êtes effaré par le chiffre. 13 millions de Congolais, au moins, vivent dans une situation d'insécurité. Plus de 7 millions de Congolais souffrent de déficits alimentaires chroniques. Plus de 4 millions de Congolais sont des déplacés intérieurs. On a plus ou moins 740 000 réfugiés congolais à l'extérieur et 540 000. Ce sont des chiffres qui sont dans la résolution.
Et après ces tableaux sombres, s'il faut revenir à l'accord de la Saint-Sylvestre, la résolution 2409 demande à la MONUSCO d'appuyer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral en RDC. C'est quoi l'entendement de l'opposition face à cette recommandation?
Il n'y a pas deux entendements. Cette résolution est écrite en français facile. Les Nations Unies ont la mission, n'est-ce pas, d'aider, de jouer le bon office, et c'est le secrétaire général des Nations Unies lui-même, pour qu'il y ait application intégrale de l'accord, notamment en matière de décrispation. On nous parle de Moïse Katumbi qui serait en difficulté. Mais une instrumentalisation honteuse de la justice. On nous parle de libération. Comment peut-on m'expliquer qu'un homme comme Muyambo, pour des problèmes de stéléonat, soit maintenu en prison, alors que Kyung ou Gédéon, un criminel, un génocidaire, habite protégé dans une maison de l'État à Lubumbashi? Où sommes-nous? Nous sommes dans un système où, comme ça a été écrit dans un journal aujourd'hui, on va de la médiocratie à la voyoucratie. Il est important qu'on arrête ce cinéma.
Et si, professeur Jacques Joly, si la situation reste statique, si l'opposition n'obtient pas ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'accord dans sa globalité, qu'est-ce que l'opposition attend des Nations Unies?
Ce n'est pas un problème de l'opposition. Les Nations Unies, c'est l'ensemble de plus de 155 États du monde qui attendent de la République démocratique du Congo ou de ceux qui se proclament gouvernement d'assurer leurs responsabilités. Notamment, et vous l'avez dit, il est important qu'on restaure l'État. Ça passe par la relance d'un processus électoral crédible et non une sorte de cafouillage, de manipulation et de mauvaises applications. L'accord du 31 décembre, c'est un accord qui tente de sauver la dérive anticonstitutionnaliste d'un pouvoir. On veut nous ramener dans une convention à retrouver le repère et les paramètres. Et les Nations Unies ont une obligation, j'espère, que la MONUSCO assure, de faire tous les 30 jours. Avant, comme on l'a dit, c'était tous les 3 mois. 30 jours. Faire l'état de l'évolution du processus. Nous espérons qu'on le fait. Nous donnons à Mme Leila Azeroughi qui vient d'arriver le bénéfice, n'est-ce pas, du doute et, n'est-ce pas, du temps de prendre en charge. Mais la situation ne fait que se détériorer. Elle arrive, la situation d'insécurité était dans le nord Kivu, sud Kivu, ça se déplace en Ituri où on a aujourd'hui des cas de grave violation des droits de l'homme par l'incapacité d'un gouvernement.
Brièvement, on rappelle ici que vous êtes aussi technicien en matière électorale. Vous avez dirigé la centrale électorale en 2011. La MONUSCO est appelée, n'est-ce pas, à fournir une assistance technique, un soutien logistique dans les cadres du processus électoral. Est-ce qu'il y a une différence avec les précédentes résolutions de la MONUSCO ou cette fois-ci, il y a quelque chose qui change?
La MONUSCO,
une assistance technique.
La MONUSCO en matière d'assistance technique est un organisme d'appui. Mais quel est le moteur d'un processus électoral? C'est la volonté politique. Quel est le ciment d'un processus électoral? La confiance. Mais lorsque l'organe de gestion électorale ne construit pas la confiance en publiant des chiffres parfois douteux, donc on fait en fait du retour. Toutes les leçons, les mauvaises leçons de 2011 n'ont pas été tirées. Pour publier les calendriers électoraux, il a fallu qu'on fasse pression sur la CENI.
Merci.
Pour qu'on puisse vous aider. Il faut accepter l'aide. Mais lorsque vous dites, nous avons l'argent, nous n'avons pas besoin d'aide internationale, en mentant par ailleurs parce que vous n'en avez pas.
Merci, professeur Jacques Joly. Monsieur Moudjib Djinadou, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Lubumbashi.
Mouidiroa à Lubumbashi. L'organisation des élections étant une matière relevant de la compétence souveraine, le chapitre politique ou le volet politique de la résolution 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies sera probablement voué à l'échec car je ne vois pas si le gouvernement en place leur facilitera la tâche au nom du principe de la non-ingérence qu'il a toujours évoqué lorsqu'il se sent contraint à faire quelque chose qui est contraire à leur calcul politicien. Et c'est pour cette raison que la MONUSCO ne sait pas se prononcer sur l'usage de la machine à voter qui continue à diviser la classe politique. Et du fait que cette résolution n'a pas un caractère contraignant, même l'implication de la MONUSCO dans la décrispation du climat politique tel que recommandé par l'accord de Saint-Sylvestre n'aura aucun impact considérable. Peut-être seul son interventionnisme dans la logistique pourra aboutir aux résultats significatifs dans l'organisation des élections.
Monsieur Moudjib Djinadou.
Oui, il y a beaucoup d'éléments dans cette intervention. Je suis évidemment d'accord avec le premier segment de ce que disait l'auditeur. Vous savez, la Charte des Nations Unies, en son article 2, proclame le principe de l'égalité souveraine des États membres. Et donc, ce n'est pas la MONUSCO qui dérogera à ce principe-là. Et si cela conduit à certaines limitations de l'action internationale dans son ensemble, c'est bien que la charte doit être respectée. Cela dit, ici, dans le contexte actuel,
si je puis dire, le chemin est balisé. Il y a un accord. Vous savez, l'un des principes fondamentaux, l'un des principes cardinaux de l'intervention ou d'une opération de maintien de la paix ou de type, n'importe quel type d'opération d'ailleurs des Nations Unies dans un contexte national, c'est basé sur le fait qu'au-delà du consentement du pays hôte, du gouvernement hôte, il y a aussi qu'il faut l'existence d'un accord préalable. Que la mission, en ce qui nous concerne la MONUSCO, vient aider à faire exécuter. Nous sommes exactement dans ce cas de figure. Tout ce qui n'est pas prévu dans l'accord n'est pas a priori partie de ce que peut faire la MONUSCO. Mais ce qui est prévu dans l'accord, nous utiliserons les capacités qui sont les nôtres, les orientations.
Et donc, la 2409 a ses limites.
Il n'y a pas d'œuvre humaine qui n'a pas de limites, j'imagine. Mais bon, encore une fois, dans le cadre de ce qui est prescrit par l'accord du 31 décembre, par la constitution de la République démocratique du Congo, évidemment, il y a de la matière. Lorsque nous nous engageons en matière de bons offices et d'autres aspects du maintien de la paix et de la stabilisation du Congo, à faire avancer les choses. De toutes les façons, ici, il y a un horizon assez évident, le 23 décembre comme date retenue par tous pour l'organisation des élections, et donc et un chemin et certains repères, certaines étapes pour y arriver. Donc, encore une fois, au risque de me répéter, le chemin est balisé et nous savons ce qu'il y a à faire. Toutes les parties savent ce qu'il y a à faire dans le contexte actuel.
Et un autre aspect soulevé par cet auditeur, c'est les recours à la machine à voter qui soulève beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de débats au sein de la société congolaise. Et la MONUSCO, les Nations Unies disent quoi par rapport à cet aspect des choses.
Oui, vous comprendrez que mes deux interlocuteurs ont certainement beaucoup de choses à dire par rapport à la machine à voter, et vous comprenez aussi que voilà, nous nous retrouvons dans ce cas de figure là. La machine à voter, c'est un instrument qui émane de la décision de la Commission électorale nationale indépendante. Et donc nous sommes ici à parler à délibérer sur la résolution 2409 qui donne un mandat à la MONUSCO, n'est-ce pas? Vous ne verrez nulle part à l'intérieur de cette résolution qu'il ait fait mention de la machine à voter. Vous savez, la MONUSCO dépend du Conseil de sécurité. Si le Conseil de sécurité n'a pas donné à la MONUSCO l'instruction de gérer les questions liées à la machine à voter, c'est pas nous qui le ferions. Cela dit, il n'empêche que dans le cadre des bons offices de la représentante spéciale, c'est un sujet qui revient dans ses engagements bilatéraux, multilatéraux avec les acteurs concernés.
Merci, monsieur l'ambassadeur André Alain Atundu Liongo. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Butembo au nord Kivu.
Josué Kakule Mouteke, depuis Butembo. Cette résolution n'est pas la première du genre. Elle doit revêtir un caractère contraignant et pragmatique pour éviter qu'il ne tombe caduque en manquant du réalisme. L'accompagnement devrait consister à l'appui financier et logistique, mais aussi la MONUSCO devrait s'impliquer dans les questions qui divisent l'opinion, telles la machine à voter, les fichiers électoraux, la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Parce que ce genre de questions nous conduisent droit au report des élections ou alors aux contestations. La résolution étant d'une seule année, il n'y a pas de temps à tergiverser pour son application. Quel bilan à mi-parcours peut-on faire de cet accord pour ce mois déjà passé?
Monsieur André Alain Atundu.
Merci. Cette résolution doit être pragmatique pour être efficace. Ce n'est que la vérité. Et c'est ce que j'ai appelé...
Et contraignante aussi.
Contraignante. Mais c'est ce qui apparaît à travers ces résolutions en tenant compte des exigences de souveraineté de la République. Une transparence, une coopération efficace avec la MONUSCO et le principe de retrait programmé, parce que la MONUSCO n'a pas pour vocation de rester éternellement ici. Et donc...
Peut-on parler de la souveraineté lorsque vous avez suivi le professeur Jacques Joly, oui, qui estime, lui, que à travers cette résolution, on met, n'est-ce pas, la RDC sous tutelle des Nations Unies?
Non, point du tout. D'abord, contrairement à ce qu'a dit le professeur, cette résolution n'est pas un constat de l'incapacité du gouvernement à assurer l'autorité de l'État. Je voudrais seulement rappeler le cas du Kassai, le cas d'Ituri. Le gouvernement être incapable de se renoncer à exercer ses prérogatives. Or ici, le gouvernement se bat, je dirais même victorieusement, par rapport aux poches des résistances. Ça, c'est l'évolution de la guerre, des gens qui ont pénétré les milieux et qui se sont installés dans les milieux, c'est normal. Une guerre asymétrique, une guerre à aspect humain prononcé, mais qu'on ne relève pas. La plupart de ces gens-là ont des liens de famille.
Mais c'est vrai, attendons-nous, nous avons suivi au lendemain, n'est-ce pas, de l'adoption de cette résolution, certains cas de la majorité présidentielle, qui tous disaient qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté, n'est-ce pas, dans cette résolution. Qu'est-ce qui gêne aujourd'hui la majorité présidentielle dans cette résolution, la 2409?
Je vous ai détaché l'esprit, les éléments essentiels et structurants. C'est ça qui est important. Respecter la souveraineté de la République, notamment en exhortant une coopération MONUSCO et la République démocratique du Congo, que ce soit sur le plan militaire, de la pacification, que ce soit sur le plan politique, dans la réalisation de l'accord. Ça, c'est important. Et aussi, rappeler que la programmation, le retrait programmé, n'est pas perdu de vue.
Voilà. Ça, ce sont des éléments. Les bons offices qui sont envisagés, est-ce qu'aujourd'hui, si les Nations Unies initiaient une telle démarche, la majorité pourrait accepter que les Nations Unies puissent, n'est-ce pas, initier ces dialogues entre vous et vos amis de l'opposition?
Qu'est-ce que c'est que les bons offices? Les bons offices doivent avoir un cas concret d'application. Sinon, sur le plan de principe, qui peut s'opposer au dialogue? Personne ne peut s'opposer au dialogue, sauf quelques radicalisés qui estiment que dialoguer avec le pouvoir, c'est ne pas digne d'une opposition responsable. Qu'est-ce? Point d'interrogation.
Merci, professeur Jacques Joly. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu au Sud-Kivu.
Kikiri Chomba de Bukavu au Sud-Kivu. Pour moi, cette résolution, surtout son volet politique, était mort-né, d'autant plus qu'elle n'a pas un caractère contraignant. Rien ne peut contraindre le pouvoir en place d'abandonner sa logique de demeurer au pouvoir au-delà de 2018, à part la résistance populaire. On aurait bien voulu voir une résolution qui accompagne la RDC sur le plan financier et logistique, comme en 2006, mais aussi la mise en place d'une structure d'accompagnement de l'accord de la Saint-Sylvestre, comme ce fut le cas avec la FIAT. Les élections étaient droits constitutionnellement reconnus au peuple, qui malheureusement est devenu une faveur aux yeux de nos gouvernants. À mon avis, le peuple congolais doit se battre pour un seul homme, car son salut ne viendra que de lui-même. D'autant plus que cette communauté internationale est impuissante face au danger que court le peuple congolais.
Professeur Jacques Joly.
Je partage le fond de la pensée de ses compatriotes, parce que il a bien dégagé la problématique, c'est-à-dire nous sommes en face d'un pouvoir qui s'accroche, qui utilise manigance, tartufferie et autres, n'est-ce pas, pour garder le pouvoir. Et voilà que les Nations Unies ont pris une résolution contraignante qui finalement n'est pas acceptée. Vous savez, vous l'avez dit, lorsque cette résolution a été prise, on a entendu les récriminations dans les camps de la majorité présidentielle. Et quand on parle de retrait programmé, mais le retrait, qui refuse le retrait? Au contraire, la présence des Nations Unies, notamment à l'Est, est une demande forte de la population face aux difficultés, je ne veux pas dire l'incapacité de nos forces armées. Nous avons 150 000 hommes au sein de FARDC, 130 000 policiers. Et s'il y a une quelconque mobilité, quelconque confiance, c'est vis-à-vis de 20 000 hommes, dont notamment la brigade internationale. Donc ça pose la question de la capacité et, n'est-ce pas, de la crédibilité de la réforme de notre système de défense. Ce sont des questions fondamentales pour constituer un État de droit. C'est un État qui est capable d'assurer. Et c'est que dit notre compatriote. qu'il faut que le peuple congolais reste vigilant. On a signé un accord, on dit qu'on ne touche pas à la Constitution. Heureusement, mon co-débatteur n'a jamais accepté ces débats sur le référendum, il a toujours dit que ça n'existait pas, mais dans certains esprits rétors dans son camp, il y a des gens qui visent aujourd'hui même à retarder les élections, à chercher un autre dialogue, à commencer à attirer certains membres de l'opposition pour partager le pouvoir. Mais c'est ça justement. Or, ces mécanismes de contournement de la Constitution, de non-respect de l'accord, de non-respect de la parole, de la culture du respect du texte, mais c'est ça la base, n'est-ce pas, de désorientation de notre pays. Donc, il est important que le peuple congolais soit vigilant, parce que c'est lorsqu'on est dans l'inertie du peuple que les tyrannies trouvent leur citadelle de protection. Donc, la mission aujourd'hui des partis politiques, c'est d'éveiller la conscience des Congolais. Que nous sommes en face d'une dictature rampante qui veut garder le pouvoir. Il est important que cette population ne soit pas distraite et que surtout certains acteurs politiques ne tombent plus dans ces jeux, n'est-ce pas, de négociations pour partager des primatures et notes.
Et aujourd'hui, par rapport à ce que vous venez de dire, comment vous entrevoyez la mise en application de cette résolution, la 2409?
Je crois que, en suivant notre ami des Nations Unies, le point central, le nœud ou le point focal, c'est l'organisation des élections le 23 décembre 2018.
Des élections crédibles.
Crédibles. Et nous devons tous travailler, pour autant qu'on veut, à ne serait-ce qu'à créer les conditions d'apaisement, de décrispation, qui passent notamment par la libération de détenus politiques. Mon cher ami, est-ce que vous savez qu'il y a de jeunes gens de la Lucha, des Filimbi, qui sont détenus depuis 4 ans dans des amigos et des cachots clandestins de la NER, sans possibilité de voir un seul avocat ou autre? Est-ce que on sait qu'aujourd'hui, il y a comme un acharnement sur un certain nombre de candidats? Tantôt, il est des mercenaires, mais le mercenaire principal est rentré chez lui. Tantôt, il n'a pas la nationalité, comme si nous soulevons cette question des nationalités multiples ou des gens qui ont eu de nationalité, certaines personnes resteront encore au Congo.
Et en conclusion, nous sommes à la fin de l'émission.
Ces pays nous appartiennent. Et personne n'a le droit de polariser le pouvoir, de confisquer le pouvoir ou encore de nous contraindre à vivre dans la pauvreté. L'article 64 de la Constitution nous impose des devoirs et ces devoirs-là, tout le monde est prêt à l'accomplir parce que c'est un devoir constitutionnel.
Monsieur Moudjib, nous sommes à la fin de l'émission. Comment vous entrevoyez la mise en application de cette résolution après avoir écouté ces débats, après avoir suivi, n'est-ce pas, les différentes réactions des auditeurs?
Oui, très bien. D'abord, dans cette résolution qui donne notre mandat, il y a des repères chronologiques que le Conseil de sécurité a établis pour justement évaluer l'avancée du processus. Alors très rapidement, j'en cite quelques-uns. Un budget pour les élections qui soit clair. L'approbation de la loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale. C'est en cours aujourd'hui même au niveau de l'Assemblée nationale.
Mais un texte est déjà contesté en amont.
Bon, ça ce sont les aléas, you know, vous savez, de la vie politique. L'audit indépendant du fichier électoral, la finalisation de l'enregistrement des candidats à date due. Ça, alors ce sont des exigences séquentielles qui institue une obligation de résultat à toutes les parties et qui traduit donc la volonté du Conseil de sécurité d'évaluer le processus. Merci. Et de pouvoir prendre des décisions adéquates.
Merci, l'ambassadeur André Alatoundou. Votre conclusion?
Je dois saluer l'esprit nouveau, l'esprit positif de cette résolution. Il n'est plus temps de continuer à se contenter des jérémiades d'une classe politique ou d'acteurs désespérés. Il faut nous engager à faire que le processus soit conclu. Merci. Victorieusement par les élections.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polido Basunga qui était à la technique, à Dona Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pele Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Okapi.